Moi, c'est André de Mboujima, locataire oriental. J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Le minerai de cobalt est exploité depuis quelques jours dans les parcelles résidentielles au quartier Kalipopo, dans la commune de Kigukula, à Likasi. Des centaines de creuseurs venus des différents coins du Haut-Katanga et du Lualaba ont afflué vers Kigukula à la recherche de ces minerais. Pendant ces temps, en Mboujimaï, au Kasaï, dans la province du Kasaï oriental, les habitants du quartier Djovo, dans la commune de Bipemba, dénoncent une exploitation à grande échelle du diamant dans des parcelles résidentielles par des groupes de creuseurs artisanaux. Certains observateurs estiment que cette situation relance donc le débat sur l'encadrement de l'exploitation artisanale de minerais en RDC. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce programme réalisé par et coordonné par Jérôme Gimbo et Piero Elamenji. J'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero Elamegi.
À Kikula, dans Likasi, tout est parti d'un habitant qui a découvert le minerai, le cobalt dans sa parcelle en creusant une fosse septique alertée. Plusieurs personnes ont accouru pour exploiter illégalement dans des parcelles ces minerais et un autre minerai qui a appelé, a causé l'affluence des creuseurs. C'est dans la cellule Chimbwaka, chez le chef Nkomba. Nous sommes là dans la commune de Bipemba, à Mboujimaï, où plusieurs personnes ont accouru pour creuser le diamant dans des parcelles habitables, bien sûr. Alors, c'est là relance les débats sur la question de l'exploitation artisanale de minerais, mais aussi de la délimitation des zones habitables par la population et la cartographie même des minerais dans notre pays. Nous en parlons et nous avons associé à cet échange Monsieur Joseph Ikoli, secrétaire général aux mines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Ikoli.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Voilà. Comment le ministère a-t-il réagi quand il a appris cet envahissement des zones habitables pour exploiter ces minerais, que ce soit en Mboujimaï ou bien à Likasi?
Merci, Monsieur le journaliste. Comment nous avons réagi sous l'impulsion de son excellence, Monsieur le ministre national des Mines? Il nous a envoyé immédiatement à Lubumbashi. Allô?
Allez, oui, on vous écoute.
Ah, d'accord. Il nous a envoyé immédiatement à Lubumbashi et jusqu'à Likasi.
Ok.
Nous avons effectivement découvert qu'il y a une exploitation, je dirais, sauvage et donc illicite dans les parcelles de Kalipopo. Et il nous a demandé d'interdire cette exploitation. Et le samedi 7 avril, nous avons annoncé la mesure d'interdiction de cette exploitation dans le quartier Kalipopo à Kikula, donc dans la ville de Likasi.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mesure a été respectée par la population et qu'en ce moment, on ne continue plus à creuser?
Bon, le dire qu'on ne continue pas à creuser, je crois que ça risquerait de fausser franchement la réalité, étant donné que l'exploitation s'est faite dans les parcelles, les gens même commencent même à clôturer, mais la mesure est là et nous avons instruit, donc son excellence monsieur le ministre national des Mines a instruit le ministre provincial, le chef de division, de faire le suivi sur place. Je suis rentré il y a 2 jours, on n'a pas encore reçu le feedback du suivi de cette mesure pour nous dire s'il y a poursuite de l'exploitation ou pas. Néanmoins, la mesure est déjà là et c'est que nous savons également que nous avons aussi l'appui des ONG pour essayer un peu d'aller sensibiliser les exploitants, enfin les prétendus, disons, exploitants, disons, artisanaux de l'ICACI pour qu'ils puissent cesser. Et de deux, pour décourager cette exploitation, dans la mesure, il a été clairement dit que toute coopérative minière qui s'évertuerait à s'installer dans ce site et même à acheter ces minéraux se verrait retirer son agrément. Toute tentative, toute entité de traitement également qui, disons, acheterait également ces minéraux illicites se verrait également retirer l'agrément. Donc ce sont aussi des mesures dissuasives pour que, et ces mesures ont été largement diffusées, pour que nos, les exploitants, nos amis, disons, résidents, moi je ne peux pas les appeler exploitants artisanaux, nos amis résidents de cette, de ce quartier, puissent aussi prendre la mesure de l'importance ou de la portée de la mesure du gouvernement.
Mais alors ça c'est dans c'est que le gouvernement décide, mais rappelons que ça c'est une tentation pour cette population quand on découvre des gisements dans les milieux habitables. Qu'aurait fait le gouvernement aujourd'hui pour essayer de résoudre cette question? Est-ce que faudrait-il carrément interdire à ces gens de creuser? C'est comme aussi en Bougimaï, alors qu'ils savent qu'ils se couchent sur ces minéraux. Faudrait-il aujourd'hui prendre des mesures pour permettre à ce que soit délocaliser la population, ouvrir les sites pour l'exploitation? Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que les minéraux vont être là et la population va être là. Ça sera difficile qu'on puisse avoir cette cohabitation sur son lit avec les minéraux et qu'on soit interdit de pouvoir l'exploiter.
Oui, mais cette exploitation, bon, date de, d'une semaine ou deux semaines. Et comme je l'ai dit, les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette mesure ministérielle a été, bien sûr, donné au ministre provincial de Mines, la division provinciale, le bureau minier de l'ICACI, CEMAP également, et ils sont en train de mettre en œuvre, de réfléchir sur les voies et moyens pour que, un, que cela se fait d'abord la conscientisation, la sensibilisation, et ensuite on pourra voir comment passer à l'acte. Parce qu'il ne faudrait pas que, nous disons, on se réveille, on dit voilà, manu militari, quitter vos résidences et terminer. Non, il faudrait d'abord commencer par une campagne de sensibilisation, ce qui est en train d'être fait, une campagne de conscientisation et les modalités pratiques de l'intrusion de manière formelle. On le verra et je crois que d'ici peu, les mesures vont tomber. S'il faut prendre l'option comme à Kasulo, à Kolwezi, pour délocaliser les gens, on pourrait le faire et les relocaliser ailleurs. Et s'il faut prendre d'autres options, je crois que d'ici une semaine ou plus tard, vous aurez les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure. Parce que c'est quand même difficile, parce que les gens y habitent, comme vous aviez dit. Quelqu'un disait que les minéraux viennent vers la famille. Et parce que cette exploitation entraîne également la présence des enfants, la présence des femmes, etc., ce qui est interdit dans les normes, dans nos normes, normes nationales, régionales et internationales que nous avons souscrit. Donc, les modalités pratiques, s'il faut que je me résume, la mise en œuvre de cette mesure ministérielle vont être publiées d'ici une semaine et que déjà la mesure d'interdiction est déjà là et qu'il faudrait que les gens puissent respecter.
Voilà, on va revenir à vous le temps d'écouter les auditeurs qui sont nombreux, qui veulent bien mettre un point de vue autour de cette question. Christian, vous êtes ici à Kinshasa, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Christian.
Merci de m'avoir associé à ce niveau du débat. Pierrot, vous savez qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'État est avant tout un organe de gestion de faits humains et naturels. Un régulateur de la vie sociale. Et donc, il ne saurait être un simple organe administratif. Alors, étant régulateur, l'État doit user de son pouvoir pour délocaliser les habitants des quartiers et communes concernées. Ça, vraiment, c'est mon avis, c'est l'option que l'État doit prendre. Et ça, c'est une chose. Alors, une autre est que l'État doit soumettre ses créseurs dans un régime fiscal qui leur serait propre. de sorte que le fruit de leurs impôts et taxes puisse favoriser justement la construction des maisons au profit des habitants des dix quartiers et communes, ou favoriser le développement de ces parties du territoire national. Car c'est de cette manière que, en tout cas moi je pense que l'on peut démontrer les liens de causalité entre les développements et la fiscalité. Et donc, comme il ne peut exister des forces collectives sans la coopération de chacun, l'État doit maintenant associer ses habitants, de sorte que, pour que ses habitants aient la quintessence de cette délocalisation, pour que cela n'aille pas, ne produise pas des remous, étant donné que ces délocalisations aura beaucoup plus d'impact tant sur le développement, mais aussi sur le plan sanitaire. Alors, pour finir, moi, je suggère à ce que nous puissions remettre en exergue cette loi sur l'exploitation artisanale, ou encore créer une loi sur les minéraux aléatoires, que j'ai qualifié les minéraux aléatoires. Pourquoi aléatoires? Ce sont des minéraux qui sortent là où on les attend le moins. Parce que cette situation, Pierrot, s'est fait sentir dans la province du Bandundu, précisément à Bandundu Ville. En 2008, il y a eu des diamants qui, créaient des diamants juste là, au port sable. Et maintenant, actuellement, c'est vers Bengué, là, toujours dans le Bandundu. Donc, vous savez, vous voyez déjà que, étant donné que notre pays, c'est le scandale géologique, alors, il faudrait qu'il y ait des mesures qui permettent, en fait, l'État, hein, d'encadrer ce genre de choses, mais aussi aux habitants d'en tirer profit des séminaires. Voilà un peu.
Merci beaucoup, Christian. Vous avez évoqué les cas des minéraux aléatoires. Cela veut dire qu'on découvre, là, on s'entend le moins. Mais d'ailleurs, il faudrait déjà, si on pouvait pousser plus loin avec les travaux d'exploration, on pourra voir que, d'ailleurs, que ce soit au Kasaï, que ce soit dans le Grand Katanga, ce sont des zones minières, c'est peut-être les travaux qui devaient être faits en amont avec les différents autres services de l'État pour savoir quelles sont les zones qu'on peut lotir, qu'on ne peut pas lotir dès lors qu'on sait qu'on a cette distribution aléatoire des minéraux à travers le pays. Merci beaucoup. Valérie, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les amis. Je vous remercie pour la parole.
Et comment on peut arriver à gérer cette question?
Oui, c'est une question tout à fait cruciale. Le secrétaire général que je salue, en passant, a dit de bonnes choses, mais je voudrais un peu ajouter autre chose. De toutes les façons, nous devons reconnaître qu'il y a déjà nécessité de la délocalisation des habitants de ces parcelles. Mais le problème, c'est le mode de délocalisation. Ces parcelles, aujourd'hui, n'appartiennent pas à l'État. Ce sont des propriétés privées, premièrement. Deuxièmement, les propriétaires n'ont pas manifesté l'intention de le vendre. Troisièmement, c'est parce qu'il y a une nécessité que on leur demande d'y arriver. Donc, il faudrait qu'on les délocalise, mais en achetant ces parcelles au prix normal, en considérant que ce sont devenus à peu près des carrières minières. Si quelqu'un l'avait acheté, même à vil prix, même à 2000 francs, je ne sais moi à quelle époque, ou 2000 francs de l'époque de Kassavou. Mais si aujourd'hui, cette parcelle doit revenir à 50 000 dollars, qu'on lui donne les 50 000, qu'on ne dise pas que non, voilà, parce que tout va être des batailles d'Awap. Alors, ça, c'est un élément important. Si on établit cette confiance, il n'y aura pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, comme le secrétaire général l'a dit, que voilà, il y aura peut-être la délocalisation. Oui. Mais, disons, comme il a dit que le ministère provincial est en train de voir ce problème. Mais je voudrais demander au secrétaire général qu'on ne laisse pas le ministère provincial évoluer seul. Vous savez qu'après le démembrement, le transfert des compétences n'a pas directement suivi. En province, il y a une crise des compétences. Qu'on se le dise, moi je viens de l'intérieur, vous le savez. Je vois mal comment un ministère provincial peut à lui seul résoudre ces problèmes. Non. D'abord, ce sont plus des politiciens que des techniciens, le gouvernement provincial. Je voudrais que le secrétariat général, dont il est le numéro un, s'implique, qu'on envoie aussi des experts qu'ils aillent là-bas, qu'ils travaillent des concerts avec nos amis de la province et qu'on dégage les éléments. Vous savez, je peux encore aller un peu plus loin. Alors,
oui, allez-y.
Ok. Le Belge avait prévu que certains sites ne soient plus habitables. C'est le cas du Bouchemal. Les Belges n'avaient pas prévu ça, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons voulu habiter.
Oui, mais monsieur le secrétaire général, on va vous accorder la parole le temps que le deux compatriotes qui sont sur les antennes terminent. Oui, allez-y, Valérie.
On te répond. Il y a des centres de préfets occupés. Une province, une ville comme la ville de Mbujimayi, c'est une ville diamantifère. On trouvera toujours des diamants. Alors, il va falloir que nous puissions continuer l'œuvre que les Belges avaient commencée. Qu'on ne dise pas que pourquoi les Belges avaient terminé. Non. Vous savez que même après l'indépendance, l'ethnie Balouba, la partie de l'ethnie Balouba qui se trouve au Kassai oriental, relevée de Kabila. C'est lorsque le fait président Étienne Tshisekedi, leader de mémoire, a été devenu premier ministre de l'Intérieur, qu'il avait ramené la direction à Mbujimayi. Mais en soi, j'aurais préféré qu'on l'amène même ailleurs. Aujourd'hui, c'est un chef-lieu, c'est déplorable, mais c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux.
Voilà, merci beaucoup Valérie. Je crois qu'ici, cette question devient aussi transversale. Ce n'est pas seulement le ministère des Mines, parce qu'il y a aussi le ministère de l'Urbanisme et Habitat, il y a le ministère des Affaires Foncières qui doivent être impliqués, parce que c'est une question des terres. Où est-ce qu'on peut lotir, où est-ce qu'on ne peut pas lotir aujourd'hui, dès qu'on sait qu'on est dans des zones qui se régorgent de minerais. Il faudrait peut-être aller plus loin avec le recherche pour savoir comment prendre des mesures qui protègent les uns et les autres. Mais pour vous, si on doit délocaliser, il faut racheter les parcelles. Et ça, c'est un grand travail qui doit être fait par le ministère. Et vous avez souhaité que le secrétaire général soit vraiment impliqué parce que c'est là où se trouvent les techniciens qui peuvent accompagner ces dossiers. Merci beaucoup, Valérie. On reste ici à Kinshasa avec vous, Singhi Pouloulou. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Merci à Radio Kapi et à nos très chers auditeurs.
On vous écoute.
Sincèrement, c'est une preuve que les recherches scientifiques n'existent pas dans notre pays. Parce que avant de lotir, il y a au préalable des études qui doivent être menées, telles que des études géologiques, qui doivent être menées dans ces milieux basées sur l'observation du sol, de la qualité du sol, des roches et autres choses. Voilà une preuve, une occasion d'ailleurs au peuple congolais, à vous journalistes et aux dirigeants de savoir donner les institutions entre les mains des scientifiques. Nous devons revenir dans les normes. Nous sommes un pays qu'on vous appelle papa. Ce n'est pas le nom de votre maman qui vous a donné. Les noms, les mots, ils ont des contenus. Maintenant, la population découvre qu'il y a des minéraux dans les parcelles. Alors, la faute à qui? L'État n'avait pas mené des recherches avant. Où faut-il placer les habitants et où ne pas placer? Il n'y a pas d'études. Donc, je profite de l'occasion que les ministères des recherches scientifiques comprennent que c'est son devoir. Ce n'est pas un ministre où il faut dormir. Les ministères des recherches scientifiques, la France est un pays développé, c'est pas parce qu'ils ont des minéraux, mais c'est parce qu'ils ont la tête. Ils ont des recherches scientifiques. La Chine était un pays pauvre et sale vers les années 1970-1980. Aujourd'hui, c'est une grande puissance. Simplement par des recherches scientifiques. Je veux que vous compreniez au mieux, vous, peuple congolais, qui me suivez, comprenez l'importance des recherches scientifiques. Kinshasa compte 35 rivières. Mais qui a déjà fait les études sur ces rivières? Non. S'agissant de la loi, c'est vrai que la loi naît lorsqu'il y a le fait. Ça, c'est un fait, donc il doit y avoir la loi. Nous savons que les impôts, les IPR, les IRL, les impôts liés au loyer, ce sont des ministères, des provinces qui en perçoivent. Comme vous venez de dire l'intervenant avant moi, que les provinces puissent prendre les choses en main, mais avec les vrais experts. Mais moi, je souligne bien, l'impôt et consort, l'impôt, c'est quoi? L'impôt, en réalité, à mon avis, c'est la justice, les droits plus la comptabilité. Le système fiscal est formé de deux éléments importants. Le droit plus la comptabilité. Quand on va parler de droit, c'est la justice. Et tout ça relève des faiblesses de notre justice. Je veux que le peuple me comprenne. De quel angle, moi, je lis ce pays? Ça, c'est une faiblesse des recherches scientifiques. Et quand on va tomber maintenant sur la justice, on doit réhabiliter la justice. Tout ça vont de pair avec la faiblesse de notre justice. Mais je demande à nos autorités, à ceux qui gèrent, ceux qui ont précédé la gestion de ce pays, comprenez maintenant, partout, il y a des faiblesses. Ça, c'est les sols congolais. On vous a dit que nous sommes un pays potent.
Oui, alors maintenant, parce qu'on doit gérer cette question, vous avez évoqué la faiblesse de, bien sûr, Singhi Pouloulou, vous avez évoqué la faiblesse des recherches scientifiques. Mais maintenant, on a déjà découvert les minéraux. quelle procédure vous vous proposez maintenant pour arriver à résoudre cette question, parce que les gens ne vont plus continuer à dormir dans leur maison tout en sachant qu'ils ont les diamants sous les lits ou les cobalt. Il faudrait quand même que l'État arrive à gérer cette question. Quelle est la proportion de gestion de cette question par l'État?
Ah oui, mais la première question, c'est d'amener les experts en études des milliers. Ils doivent étudier les sols, les sous-sols de tous ces milliers-là. C'est là où j'appelle le ministère des recherches scientifiques. Dès qu'ils vont arriver, ils vont étudier, ils ne verront pas tout, parce que ce qu'on appelle pas aujourd'hui minerai, après 20 ans, ça deviendra une minerai. Vous savez que les tableaux de Mendeleïev, on nous parlait des éléments qu'on vient d'ajouter. Il y a trois éléments qu'on vient d'ajouter. Il y a, vers les années 70, on ne parlait pas de cobalt. Aujourd'hui, on parle de cobalt. Donc, les recherches scientifiques doivent faire le travail et après, la loi va suivre. Mm-hmm. Pour le moment, ce sont des recherches scientifiques. Qu'est-ce qui est là comme minerai avant de délocaliser ces gens-là? Parce qu'on doit quantifier si la personne doit être délocalisée. Quelle est la maison à lui construire? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme moyen? Qu'est-ce qu'on doit lui donner? Est-ce qu'on doit lui payer à 50 millions? Mais comment on va estimer son sous-sol? Parce que c'est sa propriété. C'est sa propriété.
Voilà. Et là, c'est une question de la loi. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est une question de la loi, mais il faut d'abord faire des recherches scientifiques, déterminer, quantifier, évaluer. Et s'il faudrait délocaliser les gens, il faut donner la contre-valeur. Valérie parlait du rachat tout à l'heure de leur parcelle, mais à quelle proportion? C'est en fonction, bien sûr, de ce qu'on peut estimer être dans les sous-sols. C'est une question vraiment transversale, comme vous l'avez dit, Singhi Pouloulou, mais vous souhaitez que désormais les recherches scientifiques fassent leur travail pour éviter qu'on se retrouve, qu'on ait de des sols qui ont des minéraux et qui, demain, on retombe encore dans cette situation. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Eddy, vous êtes à Lubumbashi, vous gardez la ligne, il est temps que notre invité puisse réagir, on va revenir à vous.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Monsieur Joseph Ikouli, secrétaire général OMIN. Vous avez suivi le point de vue de nos compatriotes autour de cette question. Quelle est votre réaction?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais réagir sur deux volets. D'abord, celui de découverte aléatoire, absence de recherche, etc. Il est vrai que, bon, on vient de découvrir de manière aléatoire, disons, ce jugement, ce filon. Mais, au niveau du ministère national des mines, on avait déjà pris, des mesures. Mmh. Des mesures, laquelle? Depuis le mois de décembre 2017, il a été créé un service géologique national, un organisme spécialisé de recherche qui va s'occuper uniquement de recherche dans le domaine minier. Donc, demain, je vois que ce genre de découverte aléatoire n'aura plus lieu parce qu'on aura un service spécialisé pour des recherches géologiques. Donc, nous avons comblé déjà cette lacune qui était au niveau de notre pays. Nous avons déjà un service géologique national. Il y a le décret du Premier ministre a été signé et nous sommes dans la mise en œuvre de ce service. Donc, demain, il n'y aura plus ce genre de découverte aléatoire. Deuxièmement, le volet de localisation. J'ai bien dit que la commission provinciale est en train de réfléchir sur les voies et moyens pour mettre en œuvre la mesure du ministre. Entre autres, la délocalisation. Mais cela va se faire sous l'autorité, sous la coordination du ministère national de mines. Nous n'allons pas vivre ce qui s'est passé à Kassoulou. Donc, les mesures de délocalisation, nous allons travailler d'abord sur la coordination du ministère national de mines avec les experts de la province. Parce qu'il y a quand même des compétences récurrentes aussi entre le pouvoir central et les provinces dans ce secteur. Donc, cette mesure-là, s'il faut prendre cette option-là, sera sous la supervision. Donc, toute mesure, disons, s'il faut le dire, toute mesure qui va être mise en œuvre sera sous la supervision, la coordination du ministère national des mines. Étant donné que c'est aussi une question transversale, on aura également d'autres ministres, d'autres ministères, d'autres services, organismes qui vont être également impliqués. Tu vois, je suis vraiment clair. S'il y a une mesure de localisation, on les fera avec d'autres ministères. S'il y a d'autres mesures, on les fera également de manière transversale. Voilà ce que comment je peux répondre pour.
Mais si on peut revenir au niveau de.
Voilà. De nos amis.
Ok. Mais si on peut revenir au niveau de la loi, y a-t-il aujourd'hui une spécificité au niveau du code minier qui traite de cette question où si jamais on découvrait les minerais dans des zones habitables sur les plans juridiques, y a-t-il déjà une spécificité autour de ça?
Non. De manière générale, il n'y a pas une spécificité parce que on trouve les minerais sous nos résidences. C'est un problème d'abord de l'accès à l'exploitation artisanale. Si vous prenez le code minier révisé parce que vous venez de le dire, l'article 111 dit clairement que dans la zone d'exploitation artisanale, bon, je le lis comme ça, seuls les membres de coopératives minières ou des produits sont autorisés à y accéder. Or, dans ce cas d'espèce Alicati, ce quartier n'a pas été institué comme zone d'exploitation artisanale. Dans le cas d'espèce aussi à Likasi, même en Boujimaï, parce que vous venez de le dire, il n'y a pas de coopérative minière. C'est dit clairement que nous tolérons l'exploitation artisanale dans des zones d'exploitation artisanale. Nous pouvons aussi, et que cette exploitation artisanale est effectuée par les membres de coopératives minières. Nous ne voulons plus d'une exploitation par des personnes physiques. Pour que on puisse mieux encadrer cette exploitation, il faut que ça se fasse dans une zone d'exploitation artisanale instituée par voie d'arrêté du ministre national et que les membres qui vont travailler soient des membres d'une coopérative minière également agréée par le ministre national de mines. Donc c'est clairement dit, c'est vraiment, la loi est claire là-dessus.
Ok. On va écouter Trésor Eddy qui est à Lubumbashi. Eddy, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes dans la zone. D'ailleurs, parmi les Trésors qui ont afflué à Likasi, il y a aussi ceux qui sont partis de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Eddy, quel est votre point de vue? Bonjour.
Bonjour, monsieur Fiorel. Moi, j'aimerais juste insister sur la sacralité de la vie humaine. Nous avons, depuis que l'émission a commencé, on n'a pas insisté sur ça. Le secrétaire général a parlé d'une exploitation sauvage. Avec le peu de notions que j'ai en matière de mines, vous savez, lorsque vous êtes en train de suivre les filons, vous êtes en train de creuser des galeries en désordre. Et il y a risque qu'il y ait éboulement, et il y a aussi risque que les maisons qui sont dans les parcelles s'écroulent et que nous comptions des morts, des pertes en vie humaine. Alors, moi, je pense que ce qui doit orienter le plus le ministre, la décision du ministre qui doit bientôt sortir, c'est la sacralité de la vie humaine. Protéger ceux-là qui font cette exploitation sauvage, protéger les gens qui sont dans ces parcelles-là, parce qu'ils courent le risque de voir les maisons s'écrouler pendant la nuit, pendant la journée, et on peut compter des pertes en vie humaine. Les Congolais, on en a compté des millions de morts comme ça. Et avec ça, nous courons le risque d'enregistrer encore des pertes en vie humaine. Moi, je pense que la délocalisation s'impose. Elle est impérative. Parce que la tentation est trop forte. Lorsque vous êtes dans une parcelle avec le minerai en dessous, eh ben, on est que tenté de suivre le lucre. sans voir les dangers qu'on encourt.
Exact.
En faisant une exploitation sauvage.
Mmh,
voilà
merci.
Ce que moi je pouvais dire.
Merci beaucoup, Eddy. D'ailleurs, vous l'avez dit, on sait comment la vie se déroule dans les zones d'exploitation artisanale. Notre invité a parlé des enfants qui se ruent, des femmes, la promiscuité, les maladies, toutes ces questions doivent être considérées. Pour vous, toutes les mesures qui doivent être prises doivent insister plus sur la valeur de la vie humaine et la protection de ses habitants, parce que la tentation du lucre peut faire que la personne oublie même que sa maison peut s'écrouler. On a déjà vu ça dans d'autres quartiers, que ce soit au Kasaï oriental. Merci beaucoup, Eddy, Maître Likonza. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Gbadolite. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Bien, merci. Comme vous avez dit, je suis au nord où Bangui, précisément Gbadolite, une province minière où l'on exploite aussi les diamants, l'or. Et récemment, on a découvert des sites où l'on propose l'exploitation industrielle de l'or et des coltans. Mais par rapport à la thématique du jour, je relève des aspects importants. Il y a l'aspect affaires foncières et l'aspect exploitation minière. Je pense qu'on a relevé d'autres questions, mais ici, je vais dire que d'abord, en premier lieu, on doit chercher à arrêter cette exploitation illicite qui s'est faite par nos compatriotes et qui sont dans ces différentes provinces. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Il est dit dans la loi. Et puis, j'ai suivi quelqu'un dire que ces parcelles constituent la propriété de nos compatriotes. Non. Toutes ces parcelles-là font partie du sol et sous-sol qui appartiennent à l'État. L'État a plein pouvoir de les récupérer dès lors que des matières premières sont découvertes dans les sous-sols. Et donc, en les faisant, l'État a aussi le devoir, quand on va prendre les mesures de délocalisation, de procéder à l'indemnisation des occupants de ces parcelles-là pour qu'il n'y ait pas de revendications à la suite des activités minières qui seront organisées, réorganisées par l'État. Quand je parle de l'État, je vois le gouvernement provincial et le gouvernement central par l'entremise du ministre des Mines, puisque le nouveau code minier a reconnu certaines prérogatives au gouvernement provincial, et notamment au gouverneur qui doit, dans la mesure du possible, émettre un avis pour que le ministre national puisse prendre par voie d'arrêté une décision d'instituer une zone minière artisanale. Donc le gouverneur a une compétence de mettre un avis pour permettre au ministre de prendre un arrêté. Également, le ministre provincial en charge des mines a aussi le pouvoir d'octroyer des cartes de négociants, parce que les compatriotes qui font cette exploitation dans des parcelles où ils occupent, quand ils extraient des minerais, ils vont vendre ça. Et quand ils vont vendre, ils vont être en face des négociants, des acheteurs. Alors, ces négociants-là doivent être détenteurs des cartes des négociants. Également, les compatriotes qui vont dire, bon, moi, comme j'ai déjà tenté cette activité, je demeure et continue, ils peuvent aussi s'octroyer des cartes d'exploitants artisanales. Et puis, ils seront soumis à la réglementation au niveau provincial. Mais maintenant, le gouvernement central, avec d'autres services techniques, comme on parle aussi de CEMAP, il y a les cadastres miniers, il y a également la division provinciale des mines qui interviennent dans ces secteurs-là. Je parle de la situation que j'ai trouvée aussi ici au nord Ubangi, parce que l'exploitation minière s'est faite ici de manière assez organisée. Le gouverneur, une femme, Madame Marie-Thérèse Guérengo, avec toute son équipe gouvernementale, et le ministre provincial des mines, je vois que les choses sont un peu organisées.
Mais alors, mais parce que vous avez insisté, merci beaucoup, Trésor Likonza, vous avez insisté sur l'indemnisation. Mais faudrait-il aujourd'hui que l'indemnisation soit proportionnelle au prorata, bien sûr, de la valeur sur la parcelle occupée? C'est pourquoi Singhi Poloulou insistait beaucoup sur le travail d'évaluation scientifique pour savoir, quand bien même on pourrait indemniser quelqu'un, mais c'est à quelle valeur exacte aujourd'hui par rapport à ces minéraux en sous-sol, même si on ne pourra pas peut-être déterminer la valeur exacte. Mais pour vous, ces parcelles, bien qu'elles soient propriété de ces gens parce que ce sont leurs parcelles, mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, dès lors que l'État découvre qu'il y a moyen de pouvoir exploiter ces minéraux, on peut bien les délocaliser à tout en les indemnisant. Merci beaucoup, Trésor Likonza. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Marie-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, j'ai inscrit le débat de tout à l'heure dans l'analyse MOF. Alors, pourquoi je l'écris dans l'analyse MOF? C'est justement pour cerner mieux que les secteurs miniers en RDC répond à la logique d'absence et de gouvernance. Et cela constitue, bien entendu, le point d'ancrage des différentes crises uniformes que connaît le pays. Dans la mesure où les exportations désordonnées que les gens font à travers la République constituent une menace. Une menace de quel sens? D'autant plus que dans cette exploitation, les autorités congolaises ne réalisent pas les conséquences qui en découlent. Et dans cette exploitation, en termes de menace, il y a ce qu'on appelle l'implication des pays étrangers. Parce que nous le savons bien. Les minéraux que les compatriotes sont en train d'exploiter ne sont pas transformés dans ces pays. C'est les étrangers qui transforment. Alors, par cette entreprise désordonnée où l'État n'intervient pas, cela peut faire aussi que les forces étrangères puissent s'habiter dedans. C'est déjà une grande menace permanente. Mais c'est aussi une opportunité, monsieur le journaliste. Pourquoi? Parce que avec les potentialités que nous avons, lorsque ces potentialités sont transformées en richesses réelles, le pays peut se développer. Le pays peut aller vers le développement. Mais si on ne sait pas capitaliser cela, en tout cas, cette opportunité sera ratée. Alors, en troisième lien, c'est aussi une force. La force, pourquoi? Parce que dans ces pays, il y a des textes, il y a des dispositions qui régentent les secteurs miniers. Mais le fait que ces textes-là ne sont pas respectés, voilà, nous avons, là où nous sommes maintenant, dans les cas, les deux cas que vous avez sublés ne sont pas seulement les tout cas, mais partout au Congo, il y a cette exploitation illicite. Et je note aussi les faiblesses par rapport à quoi, si je m'inscris dans cette, c'est les laisser aller que les autorités laissent ces secteurs. Mais pour ce qui peut se réveiller un matin, ils se laissent exploiter et les autorités croisent les bras. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que la seule richesse que la RDC a, ce sont les potentialités. Alors, ces potentialités doivent être à l'esprit des gouvernants pour que le pays avance. Si nous laissons les potentialités aux gens qui cherchent à exploiter de manière désordonnée, je crois que nous n'allons pas développer, parce que nous n'avons que ça. Aujourd'hui, on chante, nous avons des potentialités, il y a des bombes géologiques, mais c'est justement ces potentialités-là. Voilà, nous cherchons le développement ailleurs, alors que nous avons le développement avec nous, bien à donner la main, mais tout le monde se désengage à ça, mais nous allons plutôt dans des faux clients.
Voilà. Et alors pour vous, Marie-Paul, la question clé, la question clé pour vous, c'est la question de gouvernance, l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, quand bien même c'est une question transversale, notre invité le disait, mais si on améliore la gouvernance dans les secteurs miniers, toutes ces questions peuvent être résolues, que ce soit en amont, tout comme en aval, et que ces potentialités peuvent profiter au pays. Merci beaucoup, Marie-Paul. Nous revenons à vous, Joseph Ikoli. Alors, dans un débat comme celui-ci, où nous avons ces parcelles résidentielles qui se transforment en carré, si on peut le dire ainsi, d'exploitation minière, quel devrait être le rôle du cadastre minier selon la loi qui l'institue, Joseph Ikoli?
Il fera partie d'abord de la commission, étant donné que l'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite par voie, bien sûr, d'arrêté du ministre, mais après avis, d'abord, je l'ai dit, de l'organisme spécialisé de recherche, du gouverneur, des chefs de division, et également du cadastre minier. Donc, le rôle du cadastre minier sera là pour voir s'il faut instituer la partie d'exploitation ou le quartier en zone d'exploitation. Ils vont donner leur avis technique. Donc, il va jouer un rôle très important dans la mesure qui sera prise par de manière définitive par le ministre national de Mines.
Alors, on sait que quand on pourra peut-être, si on arrivait à confirmer, à délocaliser, c'est un quartier, on peut être tenté aussi dans le quartier voisin. Faudrait-il aujourd'hui faire un travail qui va être aussi un travail costaud de pouvoir identifier les autres potentialités à travers les environs de ces quartiers? Et ça, il faut qu'on l'admette que ça va être un grand travail pour le ministère.
Oui, bien sûr, mais dans un premier temps, nous allons, je pense, nous limiter à la superficie qui fait l'objet de l'exploitation illicite actuelle, et nos experts pourront aussi examiner si ce filon va encore plus loin pour qu'on prenne une décision définitive.
Est-ce que y a-t-il eu dans l'histoire récente, que ce soit au Kassai, que ce soit dans le Grand Katanga, des cas comme ça où des quartiers résidentiels ont été envahis et que les mesures de délocalisation ont été prises qui ont permis à ce que l'État puisse se retrouver et que la population aussi se retrouve dans notre histoire récente?
Oui, le cas du quartier Kassoulou à Kolwezi, il y a eu aussi des découvertes des filons, des jugements par les résidents, et la mesure de délocalisation a été prise, et aujourd'hui le site est entièrement clôturé, et conformément aux normes nationales, régionales, internationales, et aujourd'hui ce site est exploité par une société minière. Bon, je voudrais pas faire la publicité de cette société, je ne voudrais pas citer le nom, mais déjà une société est installée et cette société est en train d'instaurer une chaîne d'approvisionnement responsable en minerais, et je peux vous dire que les observatoires internationaux ont certifié l'instauration de cette chaîne d'approvisionnement responsable. Il n'y a pas deux semaines, j'étais même à Kolwezi et j'ai rencontré une délégation internationale de la société Volvo avec un auditeur international. Et ils ont attesté que les efforts fournis par cette société, fournis par le ministère national des Mines, le ministère provincial et les ONG pour l'encadrement de ce site, il y a des résultats vraiment positifs. Dans ce site, on ne trouve plus des enfants, des femmes, bien sûr des personnes adultes, et dans ce site, dans cette chaîne d'approvisionnement, s'il faut le dire ainsi,
oui.
On respecte les exigences du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, on respecte les exigences du mécanisme régional de certification de la CRGM, et bien sûr, on respecte a priori les exigences des normes nationales, c'est-à-dire des exigences du code minier et de ses mesures d'application. Donc, il y a eu récemment un tel cas, et aujourd'hui, nous avons des résultats qui sont conformes aux normes nationales, régionales et internationales.
Je crois que le travail doit être assez costaud, parce que quand on regarde aujourd'hui plus de 150 parcelles déjà concernées du côté des Likassi, en Mbujumayi, ça a été la même chose, ou même des habitants.
Mais à Kassoulou, monsieur le journaliste, on a dit de localiser 800 ménages.
Ok.
800 ménages, et indemniser et relocaliser. La société a même commencé à construire des maisons, à matériaux durables, et certains ont aussi perçu l'indemnisation. Bon, le débat, on dirait, est-ce que c'était une rémunération juste, équitable? Bon, là, ce n'est plus le débat, parce que déjà, tout le monde a été délocalisé. C'est ainsi que j'ai dit que pour ce cas d'espèce, désormais, tu dois être fait sous l'autorité du ministère national des Mines.
Je voulais
même dire, même vous annoncer que le ministre national des Mines a dirigeanté également une mission dans l'Ituri, dans le périmètre pour une délocalisation dans les périmètres de la société Giro Field. Et là, il y aura des experts du ministère national des Mines qui vont aller d'ici une semaine ou deux pour essayer aussi d'examiner toutes les options pour une meilleure délocalisation des résidents ou des exploitants artisanaux clandestins. Parce qu'il est vrai qu'ils sont des Congolais, ils doivent travailler, il faut leur donner du travail, il faut aussi trouver des solutions alternatives. C'est pourquoi j'ai dit que ce problème est transversal. Okay. Il faut quitter le site. Et ceux qui veulent aller à l'agriculture, on va voir comment il faudrait faire. Si ceux qui vont rester dans les secteurs de mines, on va les localiser dans d'autres ZEA institués par le ministre national de mines, bien sûr avec le concours du cadastre minier, du gouverneur de province et des autres services, etc., 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 etc.
Okay. On va revenir à vous pour conclure ce débat. Il est temps d'écouter les deux derniers auditeurs de cette émission, Élie qui est en Mbandaka et Raymond qui est dans les Lualaba. Élie, merci d'être avec nous dans la parole aux auditeurs. Bonjour. Élie, bonjour.
Oui, j'ai dit tous les auditeurs de la radio Capi. En tout cas, je salue l'invité. Je voudrais ici commencer à m'appuyer sur l'existence de l'État. Bien sûr que l'État existe dans notre pays, malheureusement, il n'est pas présent dans certains problèmes qui concernent la République. Parce que lorsqu'on parle de la présence d'un État, en tout cas, on ne peut pas voir les individus, les artisanaux venir exploiter illicitement les endroits résidentiels. Ça ne peut pas se faire. Parce que l'État, bien sûr, il existe, mais il n'est pas présent. Et il a essayé, en fait, de se méfier de toutes ses responsabilités. En tout cas, cette option, les autorités politico-administratives doivent veiller, en tout cas, sur cette question pour ne pas perturber, en fait, les agglomérations urbaines. Bien sûr que on a découvert des entités résidentielles dans lesquelles on aura trouvé les minéraux. C'est là, c'est toutes ces entités ne pouvaient pas être exploitées par les artisanaux. J'ai suivi monsieur l'invité à tout à l'heure, mais je ne l'ai pas écouté parler, en fait, des taxes ou en tout cas des permis d'exploitation par tous les artisanaux. Parce que lorsqu'on veut exploiter, il faut avoir le permis d'exploitation. Monsieur l'invité n'a pas parlé ça. Parce que ce n'est pas toujours là-bas dans des cas de minéraux, mais partout dans notre pays, même pour l'exploitation du bois, l'exploitation de n'importe quelle ressource, on les exploite sans pourtant avoir le permis d'exploitation. Ça, c'est deuxième chose. L'autre chose, nous avons suivi, parce qu'il a parlé des réunions qui s'étaient nées là-bas, pour la délocalisation des crésaires, la délocalisation, en fait, de propriétaires de résidences. Est-ce que réellement, parce que lorsqu'on veut délocaliser les propriétaires d'une maison, d'une parcelle, en tout cas, il faut réserver un budget pour lequel on donnera à la personne qui va aller habiter un autre espace. Ça, c'est ce que cette question va être résolue, en tout cas, monsieur l'invité doit nous répondre à cette question. Et troisième chose, c'est la chose sur laquelle je veux m'appuyer concernant la résolution 1803 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le minerai de notre pays. Parce que la population congolaise, bien sûr que nous avons des potentialités, mais il y a des résolutions pour garantir, n'est-ce pas, l'accès de tous à s'approprier des ressources qui nous appartiennent. On ne peut pas voir les Chinois, voir les expatriés, les concessionnaires venir exploiter les ressources qui nous appartiennent, en fait. Mais nous-mêmes, les bénéficiaires, les propriétaires de toutes ces ressources, nous ne sommes pas en fait.
Là je crois, ça c'est. Oui. Élie, cette question entre dans. Voilà, Élie, cette question entre dans la politique globale des redistributions de ressources. On pourra peut-être avoir un débat autour de ça. Mais votre préoccupation quant aux taxes et aux permis, rappelons, comme l'invité le disait au début, que c'est pas une zone instituée par l'État pour exploiter d'une manière artisanale pour qu'on réclame les taxes. On peut réclamer les taxes ou bien les redevances qui est dans une zone exploitée, instaurée officiellement pour exploitation. Alors là, on est dans une situation de fait de clandestinité, d'illégalité. On ne peut pas au même moment qu'on déclare que c'est une exploitation illégale dans les zones résidentielles et qu'on dise aux gens de pouvoir payer les taxes, faudrait-il que l'État puisse instaurer une zone d'exploitation autorisée. Merci beaucoup Élie, Raymond, vous êtes dans les lois là-bas. Merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole à ce niveau du débat.
On vous écoute.
Moi, je vous parle, j'étais plusieurs fois à 13 heures, j'étais aussi plusieurs fois négocié. La chose à retenir est que notre code minier prévoit l'assistance. Mais quand le ministère de Mines est en train de distribuer des concessions, on n'a jamais tenu compte qu'il faut laisser certains sites pour les creuseurs. Et d'ailleurs, quand on trouve les creuseurs qui font la prospection dans des mines, et si on veut octroyer cette concession-là à une entreprise, on veut les chasser brutalement. Et ce qui m'a étonné une autre fois, il y a eu une autorité qui disait même aux creuseurs d'aller creuser dans les parcelles de l'air grand-père et dans les parcelles de l'air père. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater maintenant que les gens ont commencé à faire des prospections au niveau des parcelles de l'air famille et ils commencent à découvrir les minéraux. Et jusqu'à aujourd'hui, la question que je peux poser à l'invité, quel est le site qu'ils ont réservé au peuple autochtone? Parce qu'aujourd'hui, les minéraux qui sont exploités par les expatriés ne profitent pas à la population locale. Ma deuxième question, par rapport aux gens qui étaient à la suite des cas sur l'eau, quand ils ont été délocalisés, c'était dans quelles conditions? Une parcelle qui peut avoir un gisement qui peut produire plusieurs centaines de milliers de dollars, on vous remet juste 2000 dollars tout en évaluant juste la petite maison qui était sur le site. Voilà pourquoi je voulais demander à notre invité que si l'on voulait cette fois-ci délocaliser les gens qui sont à l'ICACI, on tient quand même compte que ce sont les populations autochtones qui n'ont jamais profité des exploitations qui font des expatriés. D'ailleurs, quand nous, on était creusés des négociants, vous pouvez acheter des minéraux, vous amenez chez les grands négociants, les expatriés, vous amenez les produits qu'ils achètent avec les analyseurs. Et vous n'avez pas. Vous avez acheté
Et dans ces conditions, ça devient difficile de profiter. Merci beaucoup, Raymond. On va permettre à notre invité de pouvoir vous répondre et conclure aussi au même moment cet échange assez intéressant. On pourra suivre les dossiers et nous retrouver dans les prochains jours pour savoir comment tout cela va être géré. Monsieur Joseph Ricoli, vous avez suivi les uns et les autres là. On doit chuter en une minute pour conclure cet échange, mais aussi avec une préoccupation de notre ami du Lualaba, c'est que vous avez déjà d'ailleurs répondu au cours de cette émission. On vous écoute pour terminer.
Pour terminer, Monsieur le Général, je voudrais seulement répéter et dire que d'abord, cette exploitation est illicite et donc interdite. Et que les mesures de mise en œuvre de cette décision ministérielle vont être publiées d'ici là, parce que le ministre national attend le rapport de la commission provinciale qui pourra maintenant lui être adressé et il va examiner et en ce moment-là, il y aura des mesures définitives. Deuxièmement, l'exploitation artisanale, c'est vrai, c'est autorisé dans le code minier, mais pour nous, cette exploitation artisanale, c'est en fait un tremplin. Un tremplin parce que les gens ne profitent pas de cette exploitation artisanale. La pauvreté reste, ça ne change pas. C'est ainsi que, au niveau du code, nous souhaitons toujours que la coopérative minière qui est agréée puisse rapidement passer à l'exploitation à petite échelle. Et c'est dit, et que dans la zone d'exploitation artisanale qu'il a été instituée en sa faveur, qu'il puisse demander et solliciter ce permis-là. Donc, bref,
merci.
Le cas de l'ICACI, cette exploitation est interdite, car illicite. Mais nous attendons un rapport rapidement de la commission provinciale
merci.
Pour qu'une décision définitive soit prise, non pas une décision, mais les modalités pratiques
merci.
De la mise en œuvre de cette décision soit adressée au ministre François des Mines pour les modalités pratiques de cette mesure ministérielle. Donc,
merci elle beaucoup, est interdite, monsieur. Voilà.
Les gens,
merci.
Les amis doivent arrêter.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph Ricoli. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'inspecteur général aux mines. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à Gilles Longuembo qui était à la réalisation et coordination de ce magazine, mise en onde par Jean-Noël Mokondo. Et Pierrot Elamiji vous l'a présenté. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.